des Éphraïmites. Enfin, pour terminer avec ces 300 hommes, Gédéon continue lui aussi à pourchasser ses ennemis au-delà du Jourdain, jusqu'à venir à bout de plusieurs rois de Madian et à vaincre tout le monde complètement. Continuons de nous intéresser au visage de Gédéon, juge en Israël, qui vient de terminer une guerre pour libérer Israël de ses agresseurs madianites. Nous devons d'abord remarquer qu'il a été choisi par Dieu dans ce but, malgré son tempérament un peu angoissé et vraiment méfiant, et qu'il n'a pas été investi de cette responsabilité parce qu'il est le plus grand et le plus fort des Hébreux, mais qu'au contraire, c'est un homme jeune issu d'un petit clan peu important. Et d'ailleurs, ce que veut le Seigneur Dieu d'Israël, c'est montrer que de lui seul dépend la victoire, de son intervention et de la bonne relation avec son élu, Gédéon, qui ne doit pas miser sur la force brutale des affrontements, mais plutôt sur l'intelligence et la ruse, comme s'il fallait amener une pointe d'humour dans cette guerre. Il faut dire que toute la Bible est traversée de cette constante du choix d'un plus petit ou d'un plus faible pour vaincre un ennemi qui se croit tout puissant, mais qui devra ainsi s'incliner, non pas devant le petit adversaire, mais bien devant le Dieu d'Israël qui vient sauver et protéger son peuple. Jusqu'à saint Paul, d'ailleurs, qui se réjouira, dit-il, de ses infirmités et dira « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Et la ruse est souvent présentée comme une qualité de l'intelligence pour compenser la faiblesse physique. Nous l'avons déjà vu pour Jacob, par exemple. En tout cas, Gédéon n'a pas encore totalement fini son travail après la victoire sur les Madianites, car il doit maintenant continuer son métier de juge en empêchant les Hébreux de trahir à nouveau leurs engagements envers Dieu et en respectant la loi. Dans un premier temps, ça ne sera pas difficile, car les hommes d'Israël sont enthousiastes et ne jurent plus que par Gédéon jusqu'à le plébisciter pour qu'il devienne leur roi et fonde une dynastie. Nous lisons ça au chapitre 8, verset 22. « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre souverain toi-même, » puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Voilà, mais c'est mal connaître Gédéon qui va bien sûr refuser l'offre. Et au verset suivant, nous lisons qu'il leur dit « Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils, mais que le Seigneur soit votre souverain. » Car Gédéon ne cherche pas pour lui le pouvoir. Il ne veut qu'obéir au Seigneur Dieu d'Israël. Et son seul souhait est qu'il en soit de même pour tout son peuple. En fait, dès que la loi fut donnée par Dieu à Moïse, le projet était que tous obéissent à ces lois divines dans une alliance respectueuse pour obtenir une vie droite, paisible et bien ordonnée, qui leur apportera le bonheur et la prospérité. Plus question alors de lutte pour le pouvoir, de conflits armés ni de guerre, Israël étant organisé par la loi selon le droit et la justice, il devait être en même temps protégé par la providence de Dieu. C'est un beau projet, malheureusement, les choses ne se passent pas du tout de cette façon. parce que la soumission à la loi du Seigneur, qui pourtant avait été acceptée par tous dans le principe devant Moïse, en réalité, il semble bien que l'attirance vers le désordre et la débauche ait toujours été la plus forte. Les textes bibliques, et particulièrement le livre des Juges, sont hélas assez pessimistes à ce sujet. Je vous lis par exemple la fin du chapitre 8 pour comprendre. Gédéon, fils de Joash, mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enseveli dans le tombeau de Joash à Ophra d'Aviézer. Mais après la mort de Gédéon, les fils d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils adoptèrent Baal-Berith comme Dieu. Les fils d'Israël ne se souvinrent plus du Seigneur leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour et ils ne firent preuve d'aucune loyauté envers la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Voilà, même le texte biblique est un peu désolé. L'histoire des Hébreux semble perpétuellement soumise à ces moments d'oubli de Dieu, de trahison de l'Alliance et de désobéissance à la loi d'Israël. Mais en même temps, le Seigneur leur Dieu se montre toujours infiniment patient et renouvelle sans cesse d'autres propositions d'alliance. Pour Gédéon, il semble bien que tout n'est pas complètement terminé à sa mort, puisque c'est un de ses fils, Jotham, le plus jeune de ses fils, et on dit qu'il en eut 70. C'est à ce Jotham que reviendra l'honneur de sauver l'œuvre de son père, mais malheureusement après de terribles bains de sang. Car c'est d'abord un autre fils de Gédéon, Abimélec, qui va prendre le pouvoir et commettre des horreurs sans nombre qui nous sont racontées tout au long du chapitre 9 du livre des Juges. Je vous lis simplement la fin de ce chapitre. Dieu fit retomber sur Abimélec tout le mal qu'il avait fait à son père. Voilà, il semble y avoir une moralité à ce texte, que malgré la méchanceté humaine qui ressurgit régulièrement, l'espérance d'un avenir meilleur subsiste grâce à quelques-uns. N'empêche que le livre des Juges dans son ensemble est assez pessimiste sur la capacité des êtres humains à vivre heureux simplement en accord avec les lois de Dieu. C'est pourquoi cette période finira par aboutir à un tout autre régime politique, celui des rois d'Israël, régime beaucoup plus autoritaire, mais qui finalement lui aussi aboutira à des catastrophes. Mais ceci est une autre histoire. Terminons là le récit de la vie de Gédéon, juge en Israël, qui nous laisse le visage d'un homme fidèle à Dieu, qui mena courageusement de justes combats, permettant ainsi à son peuple de vivre dans la paix et la justice, du moins pendant le temps que dura sa vie. À présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.
Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui recherchez l'Éternel, jetez les yeux sur le rocher de vos futs taillés, je l'ai béni.
ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Je vous invite à cheminer à travers les grandes questions de la vie et de la foi, mais aussi à travers les petites questions du quotidien, vous savez, celles qui nous font avancer sans en avoir l'air. Dans mon émission, Au ras des pâquerettes.
Au ras des pâquerettes, tout l'été, du lundi au vendredi à 5h30, 13h10 et 19h. Intégrale le dimanche à 22h.
L'automne viendra jaunir nos espérances, parce que l'hiver déjà engourdit vos semences. Alors parce que c'est beau, parce que j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux, parce que le temps assis fait éclore les escarres, parce que le temps rassis engraisse la mémoire, parce que la déchirure, trop longtemps camouflée, s'est transformée en mur de religiosité. À trop vouloir exister dans un corps trop petit, on oublie qu'exister brise les interdits. Alors parce que c'est beau, parce que j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux. Le soleil brûle au fond de l'eau, sa lumière plisse un peu mes yeux. Le vent salé sèche ma peau, je pars et je me sens mieux. Depuis l'aurore, le ciel est azuré de rêves, parce que l'île au trésor est au bout de la grève, parce que sans crier gare, les héros sont tombés, parce que tout se lézarde, parce que tout est piégé. J'irai loin de vos guerres, vos drapeaux vomissants, rechercher la lumière dont vous me parliez tant. Parce que c'est beau, parce que j'en ai envie, parce qu'à choisir ça vaut mieux. Et puis parce que c'est fort, parce que j'aime encore la vie, parce que beaucoup sont morts d'être restés ici. Je pars et je me sens mieux.
Présence.
Radio Présence,
18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue. C'est une nouvelle série que je vous invite à suivre aujourd'hui et toute cette semaine. François d'Assise, Un cœur qui écoute. Eh bien, c'est le titre d'un ouvrage et ça sera le titre de cette série. Je reçois son auteur, Suzanne Giuseppi Testu, franciscaine séculière, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Saint François d'Assise. Bonjour Suzanne Giuseppi Testu.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir, de vous recevoir. C'est une longue histoire consacrée à François d'Assise. Est-ce qu'on peut dire que François, c'est un vieil ami, c'est presque l'ami de toujours, de toute une vie, ou du moins une partie aussi de votre vie, Suzanne?
Oui, je pense que l'on peut dire que c'est un très vieil ami, tout simplement parce que ma sœur est née et sœur de Saint François d'Assise. Elle a 13 ans de plus que moi, donc elle est entrée dans les ordres, j'avais 4 ans et demi. Et j'ai commencé à connaître la famille franciscaine grâce à ma grande sœur. Alors elle m'était prise par François, mais j'ai toujours aimé la robe de bure. J'ai toujours aimé la joie franciscaine. Ensuite, à cette époque-là, parce que je suis une vieille dame, j'ai 78 ans, donc à cette époque-là, il y avait encore les missions. Les franciscaines partaient en mission et ils revenaient en France régulièrement pour se reposer et ils venaient souvent dans ma famille, chez mes parents. Donc j'ai connu les frères avec ce dynamisme missionnaire extraordinaire. Et bien sûr, j'aimais encore plus François. Voilà, mais je ne le connaissais pas en fait. Je ne connaissais pas la vie du saint. Pour moi, François d'Assise, c'était François, c'était les frères, c'était la fraternité, c'était la joie franciscaine. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que mes parents, bien sûr, étaient très impliqués dans la famille franciscaine, mais ça ne m'attirait pas particulièrement. J'aimais les franciscains simplement comme ça. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai étudié un petit peu la vie de François. Et là, j'ai commencé à connaître le saint. Mais ça ne me donnait pas satisfaction. C'était très beau, bien sûr, mais j'étais une jeune femme un peu révolutionnaire, un petit peu. Donc c'était très beau, mais c'est en allant à Assise que là j'ai rencontré véritablement François et que j'ai découvert l'homme François.
Alors c'est qui cette découverte de l'homme François ?
Alors cette découverte a été extraordinaire parce que je me suis aperçue que nous avions beaucoup de choses à nous dire, que nous étions très 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 proches. Et je me suis aperçue que découvrir l'humanité de François n'était pas un obstacle à sa sainteté et que c'était justement à partir de cette humanité qu'il était devenu saint, et que cette humanité me ressemblait étrangement et nous ressemblait étrangement. Et là, ça a été un véritable bouleversement, et à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus quitté.
Alors, vous n'avez plus écrit depuis 2019, votre avant-dernier livre était consacré à l'accompagnement spirituel. Oui. 5 ans de silence, 5 ans sans écrire, qu'est-ce qui fait que 5 ans plus tard, vous reprenez votre plume pour écrire à nouveau cette belle histoire qui se poursuit avec François, Suzanne ?
Alors, il est vrai, oui, que les 5 premiers livres, celui-ci le 6e, je crois, oui, les 5 premiers livres ont été très proches, très écrits d'une manière très rapprochée. Et là, bon, je ne dirais pas qu'il y avait un vide, mais c'était un peu le repos de la guerrière. C'était peut-être un peu de la paresse. Mais il est certain que face au monde actuel, face à cette jeunesse qui est souvent parfois incomprise ou même critiquée ou jugée très sévèrement, il m'a semblé que la vie de François pouvait être extrêmement intéressante. Et j'ai toujours pensé que François était intemporel, qu'il était très actuel. Alors certes, il y a 800 ans d'histoire, évidemment, mais j'ai eu le désir, et bon, c'est venu comme ça, je n'ai pas particulièrement réfléchi, j'ai eu le désir de poser quelques phrases pour provoquer un petit peu mon entourage, provoquer les lecteurs, de manière à dire, mais écoutez, cet homme est en train de nous dire des choses extraordinaires que nous pouvons réactualiser, qui peuvent nous apporter quelque chose de nouveau, même s'il y a 800 ans d'histoire, et qui vont nous obliger à repenser un petit peu notre quotidien différemment. Voilà. Et ça m'a donné le désir d'entrer dans... J'ai toujours été en dialogue avec François, cela peut paraître surprenant, mais d'écrire un livre en m'adressant à lui à partir d'un cœur à cœur, dans l'intimité, et d'oser des questions, oser mes propres questions, mais en relation avec notre monde actuel. Non pas oser des questions avec 800 ans d'histoire derrière, comme on le fait très souvent, ce qui est très utile, bien sûr, mais replacer François dans notre monde actuel, lui poser des questions, et écouter ses réponses, qui bien sûr, je m'appuie bien sûr sur l'histoire franciscaine, je n'invente rien. Mais nous nous apercevons qu'à partir des questions posées en fonction de notre vie actuelle, des difficultés que nous rencontrons, de la sécularisation qui est de plus en plus importante, hein, de ces jeunes qui sont en quête de spiritualité mais qui ne trouvent pas forcément un chemin, il m'a semblé que ce questionnement allait nous obliger à revoir les choses autrement et peut-être à écouter homme.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire un peu différemment aussi ce dernier ouvrage, hein, puisque vous allez jusqu'au... Et là, je pense aux auditeurs qui vous découvrent, qui vont peut-être aussi, et je vous invite, chers auditeurs, à découvrir ce dernier livre de Suzanne Giuseppe Testu, François d'Assise, Un cœur qui écoute. Vous n'hésitez pas, c'est audacieux. Oui. Dans votre plume, vous tutoyez directement ce vieil ami. Hein.
Oui, mais je le dis, bien sûr que je tutoie François, que ton nom soit sanctifié, on dit au Père, pourquoi je ne tutoierai pas François, c'est mon frère, il est notre frère, et je crois, je le dis dès les premières pages de mon livre, que toute personne qui a le désir d'écouter François et de le suivre un petit peu, et de connaître un petit peu sa vie d'homme, eh bien... peut le tutoyer, évidemment, ce n'est pas de l'irrespect, c'est, comment dirais-je, au contraire, c'est une marque de proximité, d'amitié, de confiance. Je crois que le tutoiement n'est pas un manque de respect, pas du tout. C'est une marque de confiance, je crois. Derrière le tutoiement, il n'y a pas forcément la familiarité. François, c'est un saint, homme pour lequel j'ai une grande admiration, mais c'est mon frère avant tout. Oui. Et ça, je l'ai découvert parce que j'ai découvert l'homme. Ça ne le sépare pas de son chemin de sainteté, ça n'enlève rien à sa sainteté, mais avant tout, c'est un homme.
Avant d'être un saint.
Avant d'être un saint. Et d'être des saintes, nous sommes des hommes et nous sommes tous comme lui en chemin de sainteté.
Donc au fond vous êtes dans cette amitié avec ce vieil ami François, amitié dans l'humanité de François et dans la sainteté de François.
Tout à fait, les deux sont indissociables et c'est lui qui par son humanité et par son parcours d'homme, hein, de jeune homme et d'homme, m'apprend à intégrer mon humanité, m'apprend à l'accepter et m'apprend aussi que je dois avancer spirituellement sur ce chemin de sainteté qui est le propre de tout homme. Je dois avancer totalement avec cette humanité. Je ne dois pas en avoir peur. Et c'est ce que François m'a toujours appris.
Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a conduit sur ce chemin de réconciliation avec votre propre humanité ?
Oh, totalement. Totalement. Et quand je dis intégrer son humanité, c'est tout simplement accepter que je suis une simple petite bonne femme, c'est tout, rien d'autre. Mais que je suis une créature de Dieu et que j'ai la possibilité, comme lui, à ma façon, avec les forces qui me sont données, avec le charisme qui m'est donné, avec ma foi, avec mes forces et mes faiblesses, mais comme lui, je peux avancer sur mon chemin de sainteté.
Que vous a-t-il fait découvrir de cette humanité aujourd'hui, puisque vous avez dit et redit que François, c'était il y a 800 ans, et que 800 ans après, François peut être aussi un témoin et un saint pour notre humanité aujourd'hui.
C'est un meneur d'hommes.
Meneur d'hommes.
François, c'est un meneur d'hommes. Alors ça me
nous
plaît beaucoup.
Nous manquons aujourd'hui.
Pardon ?
Nous manquons de meneurs d'hommes.
Je pense que nous manquons de meneurs d'hommes. Ce n'est pas une critique que j'aimais. Je n'ai pas cette prétention. Mais cela me rejoint dans l'activité professionnelle que j'ai eue tout au long de ma vie, dans le management d'hommes. Et quand on manage des hommes, on découvre bien sûr leur fragilité, on découvre leur force, on découvre leur misère aussi. Et c'est François qui, au cœur de ma vie professionnelle, en manageant des hommes, m'a appris à les respecter, à les aimer et à leur donner le meilleur de moi-même. Je crois que c'est ce que François m'a véritablement appris. Ne pas m'arrêter à la misère de l'autre, ne pas m'arrêter à ses lacunes et à ses failles. Il m'a fait comprendre que rien n'était jamais perdu, dans la mesure où moi-même, j'avais intégré mon humanité, j'avais intégré mes faiblesses, ma misère, ma pauvreté humaine, mais que je me savais enfant de Dieu et appelé au chemin de sainteté.
On vous retrouve sur ce chemin avec François, si vous le voulez bien, alors aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, avec ce nouveau livre qui est paru récemment aux éditions Salvator, François d'Assise, un cœur qui écoute, avec une préface du cardinal François Bustillo. Suzanne Giuseppe Testu, à demain, même lieu, même heure, à demain.
Clés pour vivre, l'intégrale.
Au micro pour intervenante, je reçois Suzanne Giuseppe Testu. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Vous sortez ce dernier livre, vous n'avez pas écrit depuis 2019. Ce livre est dédié à cette belle et grande figure, François d'Assise, un cœur qui écoute, avec une préface du cardinal Bustillo. Il y a de très beaux chapitres avec cette figure de François, François dans son obéissance, François aussi dans cette providence divine de Dieu dans sa vie. Et puis le tout premier chapitre, c'est un peu une introduction. Je me permets de lire cette introduction qui est de Jacques d'Allerin. François est un pécheur repenti qui a connu la boue du monde avant de se tourner vers le ciel, qui a tenté par la milice séculière avant de s'enrôler dans la Militia Christi, d'où l'importance du récit de la conversion, une conversion étirée dans le temps, progressive, comme la lente incubation d'une maladie salvatrice, comme la phase intermédiaire de la chrysalide entre la chenille et le papillon. François n'est pas un saint immaculé, c'est un converti, mais aussi un martyr manqué qui, en compensation de son échec, reçoit la grâce exceptionnelle des stigmates. Alors, c'est pas un saint immaculé, mais il reçoit ses stigmates. Oui. Il vient de cette boue et de cette boue, il se convertit pour se tourner vers le ciel. Il nous montre la direction du ciel.
C'est un message, Jacques d'Allerin écrit admirablement bien. Et j'ai choisi justement ce passage, de démarrer mon livre avec ce passage, en pensant aux jeunes. Ça, c'est très important. Parce que nous avons tous été jeunes, nous avons tous parfois fait quelques bêtises, alors le texte de d'Allerin peut paraître excessif, mais j'ai découvert que s'approcher au plus près de François et découvrir son humanité et les passions qui l'animent, eh bien, c'est un véritable bonheur. Cela peut paraître paradoxal, mais justement, ce que d'Allerin dit, c'est un message d'espérance si on sait le décortiquer, si on sait l'entendre, si on sait l'écouter et si on s'approche un petit peu plus de François. Donc, parler de l'humanité de François n'enlève absolument rien à sa sainteté, bien au contraire, et nous nous apercevons que dès lors, la confiance et la vie deviennent possibles. Alors oui, François est un pécheur repenti, c'est un homme en chemin de sainteté, et j'insiste particulièrement sur la jeunesse de François en tant que période d'initiation. Ça, je crois que pour les jeunes, c'est extraordinaire, parce que c'est un jeune qui se cherche, il est en errance. Il n'est pas né saint. On veut toujours nous faire croire que les saints sont nés saints, mais pas du tout. C'est un jeune qui est en errance et il a une soif d'absolu qui sommeille en lui. Et moi, quand je rencontre des jeunes à l'heure actuelle, je m'aperçois à quel point il y a une soif, justement, de spiritualité qui n'est pas assouvie, parce que peut-être ils ne savent pas, ils n'ont pas rencontré les personnes qu'il faut. Et cette soif chez François, elle se manifeste à travers des expériences humaines extrêmement fortes, et pas forcément des expériences allant dans le sens de la chrétienté, allant dans le sens de l'Église. Il s'engage par exemple dans des mouvements populaires, il a le désir de promotion sociale, il s'engage dans l'armée du pape, il va guerroyer. Donc cela nous montre d'une façon extraordinaire que tout chemin de sainteté s'accomplit progressivement au regard de notre histoire. Et surtout, je crois que ce qui m'a paru important de dire tout au long du livre, je le répète en divers endroits, c'est que la folie de la jeunesse n'est pas forcément un obstacle. Et ce qui est aussi très beau, c'est que François ne renie absolument rien de son histoire, c'est-à-dire que ses excès de jeunesse n'enlèvent rien à sa grandeur d'âme. Ça montre simplement qu'il est éloigné de Dieu.
Mais c'est plein d'espérance pour, je pense, aux parents, peut-être, et grands-parents qui vous écoutent.
Mais bien sûr.
Inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leurs petits-enfants.
Mais bien sûr.
C'est un message fort que vous passez à travers
François.
Très
fort. Mais oui. Mais je dédie ce livre à mon filleul, à mon neveu et filleul, et je le lui dédie parce que lui aussi, c'est un jeune plein de vie, qui a un cœur extraordinaire, mais qui ne sait pas trop encore. Et pourtant, il a une spiritualité extraordinaire en lui. Donc, les excès de jeunesse, où il n'enlève rien à la grandeur d'âme de François, ni à aucun jeune à l'heure actuelle. Ils sont simplement peut-être un peu éloignés de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? François a su écouter, il s'est interrogé, il est entré dans un désir. Peu à peu, il a donné un autre sens à sa vie. Alors, oui, il avait une grande noblesse de cœur parce qu'il aimait briller, il avait une très grande vaine gloire. Et sa générosité n'était pas, sans calcul peut-être, parce qu'il fallait qu'il brille au niveau de toute cette noblesse. Mmh. Il voulait être reconnu. Il voulait lui-même s'enrichir. Mais peu à peu, c'est par le don du cœur qu'il s'est converti. Et là, sa vie a pris un autre sens. Il va commencer à se donner, il va s'abandonner, il va s'engager. Donc, on s'aperçoit que François ne s'est pas sclérosé sur son passé. Et nous n'avons pas à nous enfermer dans notre histoire. Nous n'avons pas à enfermer les jeunes dans leurs histoires ou dans leurs erreurs de jeunesse. Et à mon âge, je pourrais largement être grand-mère. Bon, tous les jeunes que je rencontre, je leur dis, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, continue. Tu as peut-être commis des erreurs, mais tu vois, il y a un désir en toi et tu peux donner un autre sens à ta vie. Écoute la vie de François, suis sa vie, suis son histoire d'homme et tu verras que tu vas t'y découvrir toi-même.
Alors quand on vous écoute, Suzanne, Giuseppe Testu, ce François d'il y a 800 ans est un François pour aujourd'hui et cette jeunesse, et là je pense aux parents et grands-parents toujours qui suivent cette série de la semaine qui est consacrée à François, un cœur qui écoute.
Oui, je crois que François, en fait, il intéresse, il parle aux grands-parents, aux arrière-grands-parents peut-être même, parce qu'il y en a maintenant qui sont encore assez jeunes pour écouter. Il parle aux parents et il parle aux jeunes, donc il parle à plusieurs générations.
Donc c'est une idée cadeau, hein, ce livre. C'est pour toutes les générations, là, quand je
vous
écoute.
Merci, en tout cas, c'est mon souhait qu'il parle à chacun de nous pour nous permettre peut-être d'entrer dans une espérance, dans un chemin d'espérance et non pas de fatalité.
On est un peu trop désespéré aujourd'hui dans notre humanité, Suzanne.
Il y a de la désespérance, il y a un manque de confiance, il y a aussi peut-être un manque d'engagement. Il y a un manque d'engagement. Or, je crois que...
Qu'est-ce que vous entendez par engagement ? On manque de meneurs d'hommes, comme
oui,
vous disiez lors
de... Oui, mais tout le monde ne peut pas être meneur d'homme. Tout le monde ne peut pas être meneur d'homme, mais je crois que François, il a été suivi. Parce qu'il a apporté quelque chose de beau et quelque chose de nouveau. Alors, il y a les meneurs d'hommes qui apportent une parole. Et parce qu'elle est vraie, elle est puissante, elle est forte et on sent que c'est une parole de vérité. Il est dans le chemin du Christ. Il vit l'évangile à la suite du Christ. Hein. Donc, c'est la sequela Christi. Il suit le Christ. Et ça, je pense que les personnes qui l'ont écouté, nous tous qui l'écoutons, le comprenons. Et pourquoi on suit quelqu'un ? Pourquoi on suit quelqu'un comme François ? Parce que il parle simplement et en vérité, il parle à notre cœur. Donc je pense que les jeunes qui vont approcher François, peut-être à travers ce livre, qui est peut-être un peu exigeant, mais je pense qu'ils vont y trouver des choses les concernant, il me semble.
Ils peuvent peut-être s'engager,
suivre, écouter.
Oui, pour s'abandonner.
S'abandonner, c'est plus difficile, il faut du temps.
Mais commencer peut-être par cet engagement.
Oui.
Il a fallu du temps.
Écoutez l'appel, ce
pêcheur aussi converti, François. Il y a eu cette conversion, mais oui. Il y a eu aussi les différentes étapes pour François.
Oui, justement, on confond souvent l'appel et la conversion. Les deux sont liés, évidemment. Marie a été appelée, elle a répondu oui. François, devant le Christ Saint-Damien, il a dit François, va et répare ma maison. C'est un appel. Mais il lui a fallu beaucoup de temps avant de découvrir quel allait être son chemin, sa conversion, quelle allait être sa mission. Il a fallu qu'il se frotte.